Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Yebamot, page 35, DAF Lamed He.
Bonjour à tous, c'est DAF Clair Yebamot Lamed He. Hier, on a vu un enseignement de Shmuel qui nous disait qu'une femme enfant qui avait eu un rapport, on devait attendre 3 mois, bien qu'il était évident qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, mais on avait une xéra à tout goudola. Un autre langage nous dit qu'elles doivent toutes attendre 3 mois, sauf si c'est une adulte, Guillorette ou Meshoucheret, ça sous-entend qu'une petite, bien une petite Israël n'a pas besoin d'attendre 3 mois. De quoi on parle? Si on parle d'un cas où elle a fait mi-un, c'est-à-dire qu'elle a eu un rapport, mais qu'elle peut refuser ce mariage, c'est quelque chose que Shmuel nous a déjà enseigné. Et si on parle d'un cas où elle a reçu un guet, ça aussi Shmuel nous l'a déjà enseigné que dans ce cas-là, elle doit attendre 3 mois. Et là, on parle d'un cas où elle a eu un rapport Khadpéami, un rapport de Znout. Et puisque c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est pour ça qu'on n'a pas imposé 3 mois. Demande la Gemara, si c'est comme ça, Guillorette ou Meshoucheret, c'est les femmes qui peuvent, oui, avoir des rapports, puisque elles se permettaient d'avoir des rapports, donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé qu'elle attende 3 mois? La Gemara nous répond qu'il va d'après l'avis de Rabbi aussi, qui dit qu'une Guillorette, une Chifra, une Chenifdou, qui ont été libérées, elles doivent attendre 3 mois, puisqu'on peut supposer qu'elles sont enceintes. Et Rabbi aussi nous dit qu'elles n'ont pas besoin de le faire. Pour quelle raison? On les explique la Gemara. Puisqu'une femme qui a un rapport, Khal Pehami, elle va faire en sorte de ne pas tomber enceinte, donc c'est pour ça qu'on suppose qu'elle n'est pas enceinte. On dit à Gemara, je peux comprendre une guillorette, puisqu'elle sait très bien qu'elle va se convertir, donc elle fait attention. Je peux comprendre aussi qu'une femme qui a été libérée de prison ou de son maître par esclavage, elle sait très bien que c'est ce qui va arriver, donc elle fait attention, elle n'est pas tombée enceinte. Mais une femme qui est tombée par hasard, qui a été libérée parce qu'elle a reçu des coups de son maître, elle ne savait pas qu'elle allait être libérée, et donc elle ne pouvait pas, quand il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle ne savait pas quand elle a eu ce rapport-là qu'elle allait être libérée. Donc pourquoi est-ce qu'elle ferait attention? Et peut-être que tu vas me dire que dans ce cas-là, Rabbi aussi est d'accord, que dans ce cas-là, Bémet, il faut attendre 3 mois. Pourtant, c'est marqué clairement qu'une femme qui a été violée ne doit pas attendre 3 mois d'après Rabbi aussi. Donc on voit que même si c'était inattendu, la femme ne doit pas attendre 3 mois. Et là, on dit la Gemara, une femme qui a eu un rapport qui n'est pas dans le cadre du mariage, elle va faire en sorte que après le rapport, elle va se nettoyer pour ne pas tomber enceinte. Et c'est sur ça qu'on suppose qu'elle, donc, quand elle se convertit, quand elle a été libérée, etc., on suppose que même s'il y a eu rapport, elle a tout fait en sorte pour ne pas tomber enceinte, donc elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Pourquoi est-ce que Chachamim, eux, nous disent d'attendre 3 mois? Parce que peut-être qu'elle n'a pas fait ça comme il fallait. Dans la Mishnah, on a vu que si les femmes qui avaient été changées étaient Kohanot, elles sont Psulot Mina Kehuna. Je dis la Gemara seulement quand elles sont Kohanot, mais quand elles sont elles-mêmes Israël, non. Et pourtant, si elles sont mariées avec des Kohanim, elles sont interdites à leur mari. Quand elles ont eu un rapport en dehors du cas du mariage, même si c'était un viol, même si c'était un shogeg, la Gemara nous répond, on parle d'en vérité, t'as raison, c'est pas qu'elles sont Kohanot, c'est qu'elles sont femmes de Kohanim. Je dis la Gemara, femme de Kohanim, oui, femme de Israël, non. Et pourtant, il est marqué que Rav Shechel nous avait dit quelque chose, il nous avait éclairé. Une femme Israël qui a été violée, même si elle est permise à son mari, elle est interdite au Kohen. Donc pourquoi est-ce que tu me dis qu'on parlerait seulement des femmes qui sont les femmes de Kohanim? Même si c'est une femme Israël, elle devrait être interdite au Kohen. La Gemara nous dit, tu as raison, en fait, il est marqué, si elles étaient elles-mêmes des filles de Kohanim, elles sont, et qui étaient mariées avec des Israël, elles ne pourront plus consommer de la Trouma quand elles reviendraient vers leur père, quand leur mari est décédé. On a terminé le 3e Pérec, on commence le 4e Pérec. Il est marqué que celui qui fait la Khalitsa a une Ivama. Et au final, il s'est avéré qu'elle était enceinte et elle a eu un enfant. Alors si cet enfant est en bonne santé, alors lui a le droit de se marier avec ses proches. Elle a le droit de se marier avec ses proches parce qu'on considère qu'ils n'ont jamais été mariés et que la Khalitsa ne vaut rien du tout. C'est pour ça qu'elle a même le droit de se marier avec un Kohen. Mais si par contre l'enfant n'est pas un enfant en bonne santé. Et donc Bémet, il avait besoin de faire Iboum. Donc quand ils ont fait Khalitsa, lui et elle sont interdits mutuellement de leurs proches et elle a le droit de se marier avec un Kohen puisque elle a fait une Khalitsa. Si jamais s'est marié avec elle, il n'a pas fait Khalitsa. Puisqu'il s'est marié avec elle et qu'elle était enceinte, alors ça, et elle a eu un enfant. Si l'enfant était un enfant en bonne santé, évidemment, il doit se séparer d'elle. Il n'a jamais été marié avec elle. Il est réel d'un corban parce qu'il a fauté par une inadvertance. Si l'enfant n'est pas un enfant en bonne santé, il peut rester marié avec elle. Si on a un safek, est-ce que cet enfant est l'enfant du premier mari ou l'enfant du second? Donc on ne sait pas parce qu'ils se sont mariés juste après. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rester mariés ensemble, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est l'enfant du premier, ils n'ont pas le droit de se marier ensemble. L'enfant, de toutes les façons, il est cachère, que ce soit l'enfant du premier ou du deuxième, il sera cachère. Et ils seront chayav d'un korban à Sham Taloui parce qu'ils ne savent pas s'ils ont fauté. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un Sham Taloui. L'agma nous ramène une machloket emoraim, celui qui a fait la khalitza à une femme enceinte. Et cette femme enceinte, en finale, malheureusement, n'a pas eu d'enfant. L'enfant est mort. Rabbi Yochanan nous dit que la Khalitsa n'est pas bonne. Et donc, Rabbi Yochanan nous dit que la Khalitsa est bonne. Et donc, elle n'a pas besoin d'une autre Khalitsa. La question dit que la Khalitsa n'est pas bonne. Rabbi Yochanan pense que Natsra Khalitsa Menachim, puisqu'il considère que la Khalitsa qui a été faite au moment où elle était enceinte, ou même s'il avait fait Iboum, ça aurait été validé. La question, je pense que ça n'aurait pas été validé. Quelle est leur machloket? On peut l'expliquer d'un pasouk ou d'une svara. Sinon, on te dit d'une svara. Rabbi Yochanan te dit, arrête. Si à ce moment-là, Eliaou HaNavi était venu, il t'avait dit, tu sais, cette femme qui est enceinte, en vérité, l'enfant va mourir. Donc c'est sûr qu'on aurait pu lui faire Khalitsa Oiboum, puisqu'on aurait su à ce moment-là que l'enfant n'est pas quelqu'un qui va, n'est pas un enfant vivant. Et donc, ça aurait pu être validé à ce moment-là. Donc ça ne me dérange pas de valider cette Khalitsa Lema Frère. Rabbi Resh Lakish me dit non. Lema Frère, ça ne peut marcher seulement sur quelque chose qu'on peut vérifier. Comme on ne pouvait pas le vérifier, ça ne marche pas. Ou alors, je vais te ramener un passouk. Il est marqué dans le passouk. Ou ben enlo. Donc puisque il n'a pas d'enfant, on valide la Khalitsa. Resh Lakish nous dit, ou ben enlo, il faut comprendre ayen alav. C'est-à-dire qu'il faut être sûr. Et tant qu'on n'est pas sûr, la Khalitsa n'est pas validée. C'est pour cela que, quand elle était enceinte, on ne savait pas si l'enfant allait vivre. Donc la Khalitsa n'est pas validée. Demande Rabbi Yochanan Resh Lakish, il est marqué dans le Mishnah, celui qui fait Khalitsa et cette femme était enceinte, si l'enfant n'était pas un enfant, qui dans bonne santé, lui était interdit de ses proches et vice-versa, etc. Donc Gemara nous dit, Rabbi Yochanan nous dit comme ça, moi je peux comprendre que, d'après moi, puisque une Khalitsa de Mouberet est définie comme une bonne Khalitsa, c'est pour ça qu'elle est psoula la Keola, puisqu'on se rend compte que la Khalitsa était une bonne Khalitsa. Mais d'après toi, qui pense que Khalitsa de Mouberet n'est pas une bonne Khalitsa, pourquoi est-ce que la Khalitsa l'a rendue pasoul? Mila Keuna, la Khalitsa ne servait à rien à ce moment-là. Il dit, tu as raison, en vérité la Khalitsa ne sert à rien, mais Mida Rabbanan, puisqu'elle a quand même subi une Khalitsa, c'est pour ça qu'on a été Mahmir et qu'on a dit qu'elle était psoula. Ika de Amri, il y en a qui ramènent que le contraire, au lieu que Rabbi Yochanan amène une preuve à ses paroles, c'est Resh Lakish qui ramène une preuve à ses paroles. Il est marqué que dans le cas où l'enfant ne va pas vivre, lui et elle ne peuvent pas se marier avec leurs proches et en plus elle est interdite au Kohen. D'après moi, lui dit Resh Lakish qui pense qu'une Khalitsa n'est pas bonne quand elle était enceinte, je comprends pourquoi est-ce qu'elle est interdite au Kohen. Parce que quoi? On a fait une Khumra. Et c'est pour ça qu'il est marqué qu'elle c'est pas pour ça qu'il n'est pas marqué qu'elle n'a pas besoin d'une Khalitsa des frères. Mais d'après toi, on aurait dû plutôt marquer la Tzrachi, la on aurait dû marquer qu'elle n'a pas besoin de Khalitsa des frères. Pourquoi est-ce qu'on a marqué simplement qu'elle est interdite au Kohen? Ça va dans mon sens ou c'est simplement une Khumra? Il a dit, tu as raison. Normalement, c'est ce qu'on aurait dû marquer, c'est qu'elle n'a pas besoin de Khalitsa des autres. Mais puisqu'au début de la Mishnah, on a marqué qu'elle n'était pas interdite au Kohen, c'est pour ça que dans la Sefa, on a marqué qu'elle est interdite au Kohen. Demande Rabbi Yochanan Resh Lakish. Dans la Mishnah, il a marqué que s'il a fait cette fois, Yiboum, pas Khalitsa, si l'enfant n'est pas en bonne santé, il peut rester avec elle. Dis, la main lui dit Rabbi Yochanan, ça va mieux dans mon sens, puisque moi j'ai dit que la Khalitsa était bonne. Donc c'est pour ça que la Bia aussi est bonne, et c'est pour ça qu'il peut rester bien avec elle. Mais d'après toi, puisque la biya n'est pas bonne, pourquoi est-ce qu'il est marqué qu'il peut rester avec elle? Il devrait avoir marqué que s'il veut rester avec elle, il doit se marier avec elle, c'est-à-dire avoir un nouveau rapport. On nous dit, Yekayem, c'est ça le terme. Il doit avoir un nouveau rapport pour qu'elle soit mariée avec lui, parce que c'est la seule solution qu'il a. Autre lecture de cette preuve, c'est Resh Lakish qui a mis une preuve contre Rabbi Yochanan. Dans la Mishnah, il est marqué que s'il a fait Yiboum et que l'enfant n'est pas en bonne santé, il peut rester avec elle. D'après moi, ce terme de. D'après moi, ceux qui pensent que Khalitsa Mouberet n'est pas bonne, c'est pour ça qu'il est marqué Yekayem, ça veut dire il doit à nouveau avoir un rapport pour pouvoir rester marié avec elle. Mais d'après toi, on aurait dû marquer, puisque de toutes les façons, l'enfant n'est pas un enfant en bonne santé. Donc le hiboum qui a été fait à ce moment-là est un bon hiboum. Donc on aurait dû dire que s'il veut, il doit rester avec elle. Et s'il veut, pour se séparer, il n'aura pas le choix que de donner un guet. Et puisque dans le début de la Mishnah, on avait besoin de s'exprimer de cette manière, c'est pour ça que dans la fin de la Sefa aussi, on a utilisé le terme de Yekayem. Amen, Gmarin, Marin, Barinta, où il est marqué, celui qui se marie avec une femme et elle s'est trouvée enceinte, il n'a pas le droit de se, la Tsara, pardon, n'a pas le droit de se marier jusqu'à qu'elle est, jusqu'à que l'enfant soit Ben Kayama. Au contraire, nous dit la Gmara, si l'enfant est Ben Kayama, donc elle aurait le droit de se marier, elle a forcément de peur que l'enfant ne soit pas Ben Kayama. Nous dit la Gmara, si tu penses que Beat Mouberet, je m'habille, Amaïlotinase, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas se marier? Arim, à ce moment-là, il y a déjà eu Iboum, nous dit Abaye. L'Agmara, tout le monde est d'accord que quand il y a eu Bia, tout le monde est d'accord que cette Bia, quand elle est enceinte, ça ne marche pas. La Mahloket est simplement au sujet de la Khalitsa. Rabbi Yochanan pense que la Khalitsa marche, et Resh Lakish pense que la Khalitsa ne marche pas. Alors il dit, mais non, mais pas du tout. Ça va ensemble, ça ne peut pas être séparé. Si elle est Khayavet de Bia, elle est Khayavet de Khalitsa. Si elle n'est pas Khayavet de Bia, elle n'est pas Khayavet de Khalitsa. Donc si ça marche, ça marche pour tous. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas pour Bichlal. Et là, Rabban nous dit l'explication de cette bretelle dans ce sens. Si jamais il s'est marié avec Saevama, et au final il s'est avéré qu'elle était enceinte, sa Tsara ne peut pas se marier. Peut-être que l'enfant sera un enfant en bonne santé. Et puisque l'enfant est un enfant en bonne santé, à ce moment-là, je peux affirmer d'après tout le monde, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que la Bia n'est pas bonne, ni la Khalitsa, et donc il faut attendre la naissance de l'enfant. Sache que tant qu'il n'y a pas eu la naissance d'enfant, elle n'aura pas le droit de se marier. Et donc ça, tout le monde serait d'accord à ce sujet-là. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. La première chose qu'on a vue, c'était l'autre lecture des paroles de Shmuel qui disait qu'une enfant juive qui a subi un rapport en dehors du cadre du mariage ne doit pas attendre 3 mois, puisque de toutes les façons, elle ne peut pas tomber enceinte. On n'a pas de xéra à tout une adulte, puisque c'est quelque chose qui n'est pas courant. Une adulte, guillorette ou libérée, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, puisque D'après Rabbi aussi, c'est une marloquette, mais d'après Rabbi aussi, on peut être sûr que comme c'est en dehors du cadre du mariage, elle ne veut pas de cet enfant, donc elle va faire en sorte de ne pas tomber enceinte. Dans la fin de la Mishnah, il était marqué que la femme des Kohanim qui était, avait été échangée, alors il était marqué que elles peuvent, elles sont psulot melakiuna. Le sens de ce pshat là, c'est qu'elles ne pourront plus consommer de la Touma. On a vu dans la Mishnah d'après que celui qui fait une chalitza a une yevama ou un yiboum a une yevama et il s'est avéré qu'elle était enceinte. S'il a fait chalitza et l'enfant est en bonne santé, bon bah la chalitza ne servait à rien. Si l'enfant est mort, bah la chalitza est validée. Si elle s'est mariée et l'enfant est en bonne santé, elle doit se séparer. Si elle a fait chalitza alors que l'enfant est en bonne santé, si elle a fait yiboum alors que l'enfant n'est pas en bonne santé, elle pourra, ils pourront rester ensemble. Si on a un doute, est-ce que l'enfant est du premier ou du deuxième, l'enfant sera kasher, mais ils ne pourront pas rester ensemble. Le chokat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce qu'une biat meuberet ou une chalitza meuberet, c'est-à-dire il a fait yiboum quand elle était enceinte, ou il a fait chalitza quand on était enceinte, et il s'est avéré que l'enfant n'est pas un enfant en bonne santé, c'est là qu'il y a une marloquette. Si l'enfant s'est avéré être un enfant en bonne santé, tout le monde est d'accord que la tzara ne sera ptoura qu'après la naissance de l'enfant, le dafek labo au Hachem, et demain, Bezrat Hachem.